Lorsque Karl Marx et Friedrich Engels ont les premiers mis en lumière le rôle révolutionnaire de la classe ouvrière, c'était en 1848, dans le manifeste du Parti communiste. La perspective qu'ils traçaient, celle d'une société supérieure au capitalisme, une société sans exploitation, sans propriété privée des moyens de production et sans classe sociale, était une anticipation intellectuelle. Elle était le fruit de leur raisonnement, basé sur l'évolution des sociétés, l'analyse du capitalisme et l'observation des premières luttes ouvrières. La révolution russe de 1917 donna corps à cette perspective. En effet, il y a 100 ans, le 25 octobre 1917, les travailleurs et les paysans russes renversèrent le gouvernement bourgeois et s'emparèrent du pouvoir. Ce n'était pas la première révolution ouvrière, loin de là. En mars 1871, il y avait eu l'expérience fantastique de la Commune de Paris, où le petit peuple, arrivé au pouvoir presque par accident, avait pris la société en main et l'avait réorganisée à sa façon, dans l'intérêt des plus pauvres. Les communards inventèrent alors une administration et un État à leur image, avec des élus choisis parmi les petites gens, parmi les ouvriers, les artisans, payés au salaire moyen, révocable à tout moment. Mais l'expérience révolutionnaire de la Commune se limita à Paris et ne dura que 3 mois. En 1917, en Russie, les exploités parvinrent cette fois à prendre le pouvoir et à le conserver à l'échelle d'un pays immense, peuplé de 160 millions d'habitants. Et pour la première fois, un pouvoir levait le drapeau du renversement du capitalisme à l'échelle mondiale et œuvrait pour la construction d'une économie rationnelle et planifiée à même de répondre aux besoins de toute l'humanité, une société communiste. Cette révolution est pour nous bien plus qu'une page d'histoire enthousiasmante. Elle est la preuve vivante que les opprimés sont capables de prendre le pouvoir et qu'au pouvoir, ils peuvent transformer en profondeur la société et ouvrir une nouvelle ère pour l'humanité. Et cela doit conforter évidemment tous ceux qui aspirent aujourd'hui à changer le monde. Loin d'être le coup d'État du parti bolchévique ou le coup de force de Lénine, comme le disent les détracteurs de la Révolution, octobre 1917 est l'apogée d'un formidable élan de libération des ouvriers et des paysans né en février 1917. Alors, revenons un peu en arrière. Tout commença le 23 février 1917, le 8 mars dans le calendrier occidental, dans la capitale de la Russie tsariste, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Depuis plus d'un mois, l'agitation montait dans les différentes usines de la ville. Les travailleurs étaient à bout, happés après 3 années de guerre et de privation. Le 23 février, journée internationale des droits des femmes, les ouvrières des usines textiles se mirent en grève pour protester contre le nouveau rationnement du pain. Elles entraînèrent les métallos des usines voisines. Alors qu'il n'y avait eu aucun appel à la grève ce jour-là, il y eut 90 000 grévistes avec des manifestations et des meetings dans les principaux quartiers ouvriers. Ce fut le début de la révolution. Pendant les 4 jours qui suivirent, les grèves, les manifestations et les combats de rue se multiplièrent. Le mouvement se transforma en insurrection politique. Les ouvriers ne revendiquaient plus seulement du pain, ils exigeaient la fin de cette guerre terrible menée pour les visées impérialistes du tsar et de ses alliés. Ils voulaient la fin du régime tsariste. Contre la police qui tirait sur la foule, ils s'armèrent. Ils allèrent au contact des soldats cantonnés dans la capitale pour les convaincre de ne pas tirer sur leurs frères et ils les rallièrent à la révolution. Le 27 février, la capitale était sous le contrôle des ouvriers et des soldats mutinés. Avec quelques jours de décalage, Moscou, puis les villes de province suivirent l'exemple et le 3 mars, le tsar abdiqua. Quelques jours suffirent donc pour faire tomber Nicolas II au pouvoir depuis 20 ans et sa dynastie vieille de 3 siècles. Le renversement de la dynastie des Romanov fut un coup de tonnerre pour l'Europe entière. Depuis la Révolution française de 1789, le tsarisme était le rempart de la réaction en Europe. Il fut le bourreau de nombreux soulèvements populaires, non seulement en Russie, mais aussi en Pologne ou en Hongrie. Et en Russie, par bien des aspects, le temps semblait s'être figé. En 1917, le tsar prétendait encore tenir son pouvoir de Dieu. Les nobles et les propriétaires terriens détenaient titres et privilèges, leur donnant quasiment droit de vie et de mort sur la paysannerie et le petit peuple. L'Empire russe, surnommé la prison des peuples, régnait d'une main de fer sur nombre de nationalités, les Polonais, les Juifs, les Ukrainiens, les Baltes, les Arméniens. Il était réputé pour sa police politique, qui pourchassait les contestataires jusqu'au cœur de Londres, Paris, Bruxelles. La chute du tsar et de son régime leva la chape de plomb qui étouffait ouvriers et soldats et fut le point de départ d'un puissant élan révolutionnaire. En quelques semaines, tout le pays se couvrit de comités d'usines, de syndicats et de soviets. Ces soviets ne venaient pas de nulle part. En 1905, la classe ouvrière russe avait déjà connu une révolution. Les grévistes d'alors avaient éprouvé le besoin d'organiser et de coordonner leurs actions. Usine par usine, quartier par quartier, ils s'étaient choisis des délégués chargés d'aller siéger dans l'assemblée ouvrière de la ville. Ces conseils, soviets en russe, existèrent dans une cinquantaine de villes et devinrent, au fil des événements, les seules autorités en qui les ouvriers avaient confiance. Ces événements de 1905 servirent de répétition générale. Car en février 1917, cette expérience n'avait pas été oubliée. Et les soviets se constituèrent dans tout le pays comme une traînée de poudre. Les ouvriers d'usines, mais aussi les soldats des garnisons et du front, organisèrent leurs propres élections pour envoyer leurs représentants aux soviets. Et à dater du moment où le soviet se constitua à Petrograd, il devint le centre organisationnel de la Révolution. Comme le raconte le journaliste américain Rhys Williams, témoin de ces événements, les soviets étaient donc composés non de politiciens bavards et ignorants, mais d'hommes qui connaissaient leur métier, de mineurs qui savaient ce qu'est une mine, de mécaniciens qui savaient ce qu'est une machine, de paysans qui savaient ce qu'est la terre, de soldats qui savaient ce qu'est la guerre, d'instituteurs qui savaient ce que sont les enfants. Et c'est parce qu'il était composé de soldats et de mineurs, de mécaniciens, que le soviet de Petrograd prit, dès ses premières séances, une série de mesures révolutionnaires. Pour l'armée et en pleine guerre, il édicta la Charte des libertés. Tous les contingents de troupes devaient élire leur comité. Les armes devaient être sous le contrôle des comités de compagnie et de bataillon et en aucun cas remises aux officiers. En dehors du service, le salut militaire et les titres hiérarchiques étaient supprimés. Il était interdit aux officiers de traiter grossièrement les soldats, en particulier de les tutoyer. Pour le ravitaillement et la population des villes, le soviet élit une commission chargée de suivre les approvisionnements et de traquer les spéculateurs et le marché noir. Et, comme l'argent est le nerf de la guerre, il envoya des corps de garde occuper la Banque d'Empire, la trésorerie, la monnaie. Qu'il l'ait voulu ou non, dès ses premiers jours, le soviet agissait comme un gouvernement. Et ce n'est pas tout, car les travailleurs n'attendirent pas les bras croisés que le soviet résolve les problèmes à leur place. De retour dans leurs usines, à Petrograd, les ouvriers se rassemblèrent et s'organisèrent en comité. Ils exigèrent le renvoi des cadres et des chefs qui s'étaient comportés comme des tyrans, qui avaient abusé de leur autorité, touché des pots de vin ou s'étaient mis au service de la police. Quelquefois, les directeurs furent simplement mis à la porte, D'autres fois, comme à l'usine métallurgique Poutilov, la plus grande de Pétrograd qui comptait 25 000 ouvriers, le directeur et son adjoint furent tués. À l'usine Baranovski, 25 membres de la direction furent licenciés par les ouvriers et 18 furent exhibés. Et 18 furent exhibés sur des charrettes pour s'être comportés comme des despotes. À l'usine Triangle, des contremaîtres suspectés d'avoir caché des outils et désorganisé la production connurent le même sort. Ces comités d'usine poussèrent comme des champignons, dans les usines d'État comme dans les usines privées. Dans une usine, le comité se réservait le droit de mener des enquêtes sur la direction et de vérifier les comptes. Dans une autre, il votait pour de nouveaux dirigeants. Dans une troisième, il contrôlait l'embauche et les licenciements. Certains comités d'usine se cantonnèrent à des fonctions syndicales, d'autres allèrent jusqu'à diriger eux-mêmes l'entreprise. Partout, ils imposèrent la revendication des 8 heures de travail par jour, des augmentations de salaire et la sécurité au travail. En plus des soviets et des comités d'usine, les ouvriers impulsèrent partout des syndicats. Dans les plus grandes usines, pour asseoir leur pouvoir, ils créèrent même leur propre milice armée. En quelques semaines seulement, les travailleurs transformèrent la prison qui était la Russie tsariste en un pays où la démocratie ouvrière s'exerçait comme nulle part ailleurs. Les travailleurs ne faisaient pas leur loi dans toutes les entreprises, mais ils la faisaient dans beaucoup, à commencer par les plus grandes. Cela fait 100 ans que ces événements se sont produits et ils nous parlent. Ils nous parlent parce que cette lutte de classe, nous la vivons toujours. Mais imaginez que demain, les travailleurs puissent mettre leur patron sous surveillance, le destituer et décider à sa place, comme le firent nombre d'ouvriers en Russie, paraît impossible. Parce qu'aujourd'hui, la dictature patronale sévit sans qu'il n'y ait de résistance collective. Certains se disent peut-être que les travailleurs ne sont plus capables de tels combats. Mais la combativité et la conscience de classe ne sont pas innées. Les opprimés passent le plus clair de leur temps à subir. Ils y sont habitués et ils ignorent les possibilités qu'ils ont en eux-mêmes de changer les choses et de prendre la société en main. Le pouvoir des classes dominantes repose sur des réalités matérielles et sur tout un arsenal répressif, des lois, la police, la prison, un appareil d'État qui impose de respecter l'ordre social tel qu'il est. Il repose aussi sur la domination des esprits. L'éducation, la culture, les informations quotidiennes dispensées par les médias, qui sont pour la plupart entre les mains du grand capital, véhiculent les valeurs de la bourgeoisie. Le mérite, la réussite individuelle, la soumission à l'argent, le conformisme social, l'acceptation de l'ordre établi. On nous explique que l'exploitation est dans l'ordre des choses, et certains la voient même inscrite dans une prétendue nature humaine. On nous dit encore que la société capitaliste n'est peut-être pas la société idéale, mais que c'est la moins mauvaise. Et de fait, l'exploitation est socialement admise, et les moments de révolte sont forcément des exceptions. Bien sûr, quand on met en parallèle ce qui se passe aujourd'hui, et ces premières semaines de révolution, la combativité et la conscience du monde du travail actuel apparaissent loin, très loin, de celles des ouvriers russes de 1917. Mais en réalité, on ne peut pas comparer. Les révolutions sociales sont des événements rares, et c'est une fois enclenchées qu'elles transforment ceux qui les font. C'est évidemment difficile pour nous de l'imaginer, mais ceux, ici, qui ont vécu des grèves marquantes, peuvent en avoir une idée, car dans la lutte, ils ont vu des camarades de travail se transformer sous leurs yeux. Ils ont vu ceux qui avaient encaissé les coups de la direction en serrant les dents, laisser éclater leur colère et devenir les plus déterminés de la lutte. Ils ont vu des travailleurs qui avaient des préjugés racistes ou machistes se battre au coude à coude avec les travailleurs immigrés et les ouvrières. Ils ont vu les taiseux prendre la parole en Assemblée générale. Ils ont vu ceux qui ne s'occupaient jamais ni de syndicats ni de politique s'impliquer dans le comité de grève, s'affronter aux forces de police ou aux nervis patronaux et être prêts à occuper l'usine nuit et jour. Alors, imaginez ce qui peut se passer dans la tête de travailleurs quand ils se rendent compte qu'ils sont des millions à être enfin prêts à ne plus se laisser faire. Ils ne voient plus les choses de la même façon. La société n'est plus cette fatalité qui nous écrase, elle devient une réalité sur laquelle on peut agir. Tous les soulèvements de masse en témoignent. Les mêmes femmes et hommes qui jusque-là restaient pétrifiés et passifs face à l'injustice font preuve, lorsqu'ils se jettent dans la bataille, d'un esprit d'initiative, d'une audace et d'une énergie qu'ils n'auraient pas eux-mêmes imaginée. En dehors de ces périodes révolutionnaires, ces potentialités sont étouffées par la domination subie par les exploités. C'est vrai pour le monde du travail aujourd'hui, et il en allait de même pour les ouvriers et les paysans russes avant qu'ils se jettent dans la révolution, parce qu'il ne faut pas les idéaliser. Avant que leur vie et leur conscience ne soient bouleversées par l'insurrection de février, ils ressemblaient par bien des aspects au monde ouvrier actuel. Après des journées de travail de 10 ou 12 heures, combien d'ouvriers russes noyaient leur fatigue dans la vodka ? Combien se vengeaient sur leurs femmes et leurs enfants des humiliations quotidiennes qu'ils subissaient ? La jeunesse russe n'était pas accro aux spectacles de télé-réalité ou aux jeux vidéo. Il n'y avait ni télévision, ni même souvent l'électricité. Mais elle l'était au sermon des prêtres de l'église orthodoxe qui leur inculquait l'amour du tsar et de la patrie éternelle. Elle l'était aux coutumes qui intégraient la soumission à un ordre barbare et injuste. Elle l'était aussi aux préjugés contre les autres nationalités, contre les Asiatiques, contre les Juifs. La combativité de la classe ouvrière russe connut, elle aussi, des hauts et des bas. Il y avait eu, bien sûr, l'expérience extraordinaire de la révolution de 1905. Mais la défaite et la répression avaient aussitôt laissé place à une profonde démoralisation qui frappa jusqu'au milieu les plus militants. Et en août 1914, bien des travailleurs applaudissaient aux manifestations patriotiques et guerrières orchestrées par le pouvoir tsariste. Et il fallut du temps pour que la révolte éclate. Plongé dans l'enfer de la guerre, le peuple russe supporta l'insupportable pendant 3 longues années. En février 1917, la Russie comptait déjà près de 2 millions de soldats tués. Il y avait 3 millions de blessés. Les troupes qui étaient envoyées sur le front l'étaient sans armes. Autrement dit, les paysans étaient littéralement menés à l'abattoir par des officiers incapables et méprisants. Et ce n'était pas beaucoup mieux à l'arrière, où les paysans et les ouvriers subissaient la faim, le froid, les accidents du travail, pouvaient être arrêtés et battus comme des bêtes de somme. Alors, qui aurait dit que la révolution éclaterait en février 1917 ? Personne, et pas même ceux qui l'espéraient de tout leur être. Lénine, qui était alors en exil en Suisse, tint une conférence le 22 février 1917, où il expliqua, en substance, que sa génération ne verrait sans doute pas la révolution et que cette tâche reposerait sur une génération nouvelle. Et quelques jours après, la révolution éclatait en Russie. Et c'est au cours des événements que la combativité et la conscience des travailleurs russes firent des pas de géant. Avec la chute du régime tsariste, ils découvrirent qu'ils n'étaient pas voués à servir de chair à canon ou de chair à profit, et qu'ils pouvaient décider de leur vie. Ils prirent confiance en eux. Des millions de femmes et d'hommes qui, en temps normal, se désintéressaient de la politique et des affaires de la société, se lancèrent à corps perdu dans l'action. Tout le monde se sentait concerné, voulait savoir, se faire une idée et participer. À partir de février, et ce pendant des semaines, il y eut des meetings à tous les coins de rue, des attroupements permanents. Comités d'usines et soviets se réunissaient quotidiennement. Les journaux et les tracts se multipliaient et s'arrachaient aux portes des usines, mais aussi dans l'armée et sur le front, comme si la vie de chacun en dépendait. Les travailleurs écrivaient leur propre histoire et ils en avaient conscience. Aujourd'hui, on entend parler de révolution pour tout et n'importe quoi. Mélenchon parle de révolution par les urnes. Jusqu'à Macron, qui a qualifié son offensive générale contre les travailleurs de révolution. Tout cela est ridicule. La révolution, c'est d'abord et avant tout des millions de femmes et d'hommes décidés à prendre leur sort en main et qui, agissant collectivement, se transforment et se dépassent. J'ai évoqué la Commune de Paris. Ce soir, nous discutons de la révolution russe. Mais pensez aussi au mouvement de masse que furent les révolutions chinoises, vietnamiennes, algériennes, cubaines. Pourquoi ces peuples, qui se sont tous lancés dans un combat ô combien inégal, ont-ils gagné? Ils se sont battus parfois à main nue contre des puissances impérialistes surarmées. Et ils ont vaincu, parce que le désir d'émancipation, l'assurance de se battre pour une cause juste, la découverte de la dignité de tout un peuple peut soulever des montagnes. C'est cet élan qui ouvre des perspectives à toute la société. Comme le disait Marx, la révolution est la locomotive de l'histoire. Eh bien, c'est pour ce genre de période où tout devient possible que nous militons. Nous voulons construire un parti révolutionnaire, car nous savons que dans ce genre de période, celui-ci est décisif. En Russie, sans le parti bolchevique dirigé par Lénine, les travailleurs ne se seraient pas emparés du pouvoir. En février, et je le répète, en pleine guerre, les masses furent capables d'un tas de choses. Manifester, faire grève, dévaliser les commissariats, s'armer, jusqu'à faire tomber le tsarisme. Elles commencèrent même à construire leurs propres organes de pouvoir à travers les soviets. Mais la bourgeoisie réussit à conserver le pouvoir d'État. Le jour même où le soviet de Pétrograd se réunit pour la première fois, des politiciens de l'ancien régime, des banquiers, des hommes de loi, des professeurs proclamèrent de leur côté un gouvernement provisoire. Ils s'assuraient le soutien de l'état-major et s'emparaient des ministères et de tout ce qui restait de l'appareil d'État. Ce gouvernement usait des mots et des symboles révolutionnaires, mais il ne désirait qu'une chose, enterrer la révolution, rétablir l'autorité des officiers et des généraux dans l'armée pour continuer la guerre, rétablir l'ordre bourgeois dans les usines et même restaurer la monarchie. La composition de ce gouvernement parle d'elle-même. Le Premier ministre était le prince Lvov, connu certes pour ses idées libérales, mais quand même un noble. Le ministre de la guerre était président du comité des industries de guerre, autrement dit, porte-parole des industriels russes, qui avaient tout intérêt à la poursuite de celle-ci. Le ministère des Finances échut à un grand propriétaire de domaines agricoles et de raffineries sucrières. Pour une révolution faite par un peuple désirant balayer les vestiges féodaux, arrêter la guerre et distribuer les terres aux paysans, c'était plutôt mal parti. Le véritable chef de ce gouvernement était Miliukov, professeur d'université et dirigeant du parti de la grande bourgeoisie, les cadets. Il était assez rompu à l'art politique pour se doter d'une caution socialiste et il confia le portefeuille de la justice à Kerensky, un avocat lié au parti socialiste révolutionnaire qui s'était taillé une réputation d'opposant dans la Douma tsariste. Kerensky était le seul ministre dans lequel les travailleurs pouvaient se reconnaître. Pour le reste du gouvernement, ce ne pouvait être que de la méfiance. Mais les travailleurs et les soldats l'acceptèrent parce que ce gouvernement autoproclamé était soutenu par les partis qui étaient alors les plus influents parmi eux, le Parti socialiste révolutionnaire et le Parti des Mensheviks. Les socialistes révolutionnaires étaient un parti historiquement implanté dans les campagnes et connu donc de la paysannerie pour vouloir distribuer les terres aux paysans. Le parti menshevik, lui, était né d'une scission avec les bolcheviks en 1903. Il se revendiquait des idées de Marx, mais il se distinguait des bolcheviks, le parti de Lénine, par sa volonté de tisser des alliances avec la bourgeoisie. Tout au long de l'année 1917, les socialistes révolutionnaires et les mensheviks se mirent à la remorque de la bourgeoisie. La Russie, agricole aux trois quarts et encore dominée par nombre de propriétaires terriens, n'en était qu'au tout début de son développement capitaliste. Alors pour eux, la révolution devait être, comme la révolution française de 1789, une révolution bourgeoise, et elle devait porter donc la bourgeoisie au pouvoir. Cette question du pouvoir est le nœud de toutes les révolutions. La révolution est une période où les classes sociales, les exploités et leurs exploiteurs s'affrontent pour la direction de la société. En février, la question qui se posait était de savoir qui devait diriger la société. Est-ce que cela devait être les capitalistes et les grands propriétaires terriens avec le gouvernement provisoire ? Ou les travailleurs, les ouvriers et les paysans pauvres avec les soviets ? Et de fait, en février 1917, les travailleurs se laissèrent dépossédés du pouvoir au profit du gouvernement bourgeois. C'est un phénomène classique que l'on retrouve dans toutes les révolutions. Les travailleurs et les opprimés en général ne se croient pas capables d'exercer le pouvoir d'État. Le fonctionnement de la société capitaliste et la dictature patronale placent les travailleurs dans une situation de subordonnés, où ils ne sont là que pour obéir et se taire, donner leur avis, participer aux décisions, ne serait-ce que dans l'entreprise où ils passent leur vie et qu'ils font tourner, ils n'en ont jamais la possibilité. Et c'est la même chose à l'échelle de toute la société. Certes, ceux qui ont le droit de vote, et encore seulement ceux qui ont le droit de vote, peuvent régulièrement glisser un bulletin dans une urne. Mais cela a peu à voir avec la possibilité réelle de s'exprimer et encore moins de décider. Et puis, on nous inculque dès la naissance que chacun doit rester à sa place, que le pouvoir et les décisions importantes doivent être confiés à ceux qui ont fait des études, qui ont des compétences et des expériences particulières, c'est-à-dire à la bourgeoisie et à ses rejetons. Des écoles d'élite ont même été créées pour former ceux qui occuperont les sommets de l'appareil d'État, Polytechnique, Sciences politiques, l'ENA. Tout un apparat, ce que l'on appelle les ordres de la République, avec le palais de l'Élysée par exemple, est là pour impressionner et pour éloigner la population des lieux du pouvoir. Alors oui, l'idée que le pouvoir peut venir d'en bas, avec la participation active de l'ensemble des travailleurs, n'apparaît absolument pas naturelle. La bourgeoisie, elle a l'habitude du pouvoir, et elle a l'habitude de commander. Parce qu'elle possède le capital, elle s'arroge le droit de diriger et de prendre toutes les décisions, y compris quand celles-ci engagent l'avenir de milliers d'hommes, de régions entières, voire l'avenir de l'humanité. Quand bien même ce sont les ouvriers qui mouillent la chemise sur les chantiers du bâtiment et qui s'esquintent la santé sur les chaînes de montage de l'agroalimentaire ou de l'automobile, qu'est-ce qu'on entend ? Que ce sont les patrons et les plus riches qui sont à l'origine de tout, parce que ce sont eux qui donnent du travail aux salariés, parce que ce sont eux, les patrons, qui font vivre les travailleurs, comme ils disent. Ils se considèrent l'alpha et l'oméga de la société et ils trouvent tout naturel d'avoir le pouvoir économique et le pouvoir politique. Voilà pourquoi, dans toutes les révolutions, la bourgeoisie a toujours une longueur d'avance sur les exploités. Et bien des révolutions faites avec la peau des paysans et des prolétaires furent récupérées par la bourgeoisie. Les ouvriers russes se laisseront-ils encore berner ? Se demanda Rosa Luxembourg, la grande révolutionnaire allemande, lorsqu'elle a pris les événements de Russie. Et confiante, elle répondait « Nous n'avons pas peur. Au contraire, nous sommes confiants. Les expériences douloureuses de leur propre classe les auront assez éduquées pour qu'ils ne laissent pas à la bourgeoisie les fruits d'une victoire qu'ils ont eux-mêmes remportée, quelle que soit l'âpreté et la durée des luttes qu'il en coûtera. Oui, Rosa Luxembourg pouvait avoir confiance parce qu'il y avait en Russie un parti pour mener ce combat, le parti bolchévique. » C'est sur cette question du pouvoir que s'affrontèrent d'une part les mencheviks et les socialistes révolutionnaires favorables au compromis avec le gouvernement provisoire et d'autre part les bolcheviks qui défendaient tout le pouvoir aux soviets. Seul contre tous, le parti bolchevique se lança à partir du mois d'avril dans une propagande infatigable pour populariser ce mot d'ordre. Il fallait, comme le dit alors Lénine, expliquer patiemment, aider les travailleurs à tirer les conclusions politiques de leur expérience et des différents événements pour qu'ils comprennent la nécessité de renverser le gouvernement provisoire et de prendre tout le pouvoir au travers des soviets. Les 8 mois qui séparent février d'octobre furent en effet l'occasion d'une politisation accélérée des masses. Les soviets connaissaient une activité intense, prenant mille et une initiatives et discutant passionnément de toutes les questions politiques. Les décisions du gouvernement bourgeois étaient passées à la loupe, commentées, critiquées. La question de la paix, qui avait été un puissant ressort des journées de février, était le point crucial. La paix était attendue. Et on découvrait que le gouvernement s'engageait auprès du gouvernement français pour continuer la guerre et se partager les conquêtes en cas de victoire. Pire, il se lançait dans de nouvelles aventures militaires alors que les soldats qui ne voulaient plus monter au front désertaient en masse. Les travailleurs réclamaient du pain, mais le gouvernement se montrait incapable d'en donner parce qu'il se refusait à prendre des mesures radicales contre les spéculateurs. Les paysans voulaient la terre, mais on leur demandait d'attendre l'Assemblée constituante. Et quand ils voulaient s'emparer eux-mêmes des terres qu'ils cultivaient, le gouvernement leur envoyait la troupe. Les bolcheviks étaient les seuls à dénoncer le gouvernement, les seuls à mettre en avant le mot d'ordre de tout le pouvoir aux soviets et à apporter une issue à une situation qui semblait pourrir sur pied. C'est ainsi que, minoritaires en mars, dans les soviets, ils se firent connaître, y compris des soldats et des paysans, et furent de plus en plus écoutés. De jour en jour, il devenait plus évident que le gouvernement jouait double jeu et que les promesses des mencheviks et des socialistes révolutionnaires ne valaient rien. Ces derniers avaient beau tenter de concilier les positions du gouvernement avec celles des soviets, l'affrontement devenait inévitable. Car le compromis qu'ils prônaient reposait une illusion. Il ne peut pas y avoir de convergence d'intérêts et de partage du pouvoir entre la bourgeoisie et le prolétariat, entre les exploiteurs et les exploités. L'existence des soviets et des comités d'usines était intolérable pour les classes possédantes. Elles voulaient sauver leurs propriétés, leur ordre social, et elles préparaient l'écrasement de la révolution. L'opposition frontale éclata en juillet. Début juillet, la fraction la plus combative du prolétariat et des soldats de Pétrograd se lança dans une manifestation armée contre le gouvernement. Cette tentative d'insurrection prématurée fut matée. La contre-révolution releva aussitôt la tête. Croyant que le vent avait tourné et que les soviets s'affaiblissaient, les membres de l'ancien régime et la bourgeoisie fomentèrent un coup d'État militaire avec le général Kornilov en août 1917. Le putsch avorta parce que les ouvriers et les principales garnisons de Pétrograd se mobilisèrent pour défendre la révolution. Kornilov ne réussit même pas à approcher ses troupes de Pétrograd. Les travailleurs du chemin de fer avaient saboté les voies et avaient emmené les putschistes sur des voies de garage. Mais la leçon fut entendue. la dictature et la répression sanglante de la Révolution guettaient. Seuls des soviets forts, concentrant tous les pouvoirs, pouvaient assurer la survie de la Révolution. Ces nouveaux événements donnaient raison aux bolcheviks, et ils les renforcèrent considérablement. Fin août, ils étaient majoritaires dans les soviets de Petrograd et de Moscou, et en septembre, ils conquirent la majorité dans tous les soviets de province. Les illusions dont les socialistes révolutionnaires et les mencheviks conciliateurs étaient tombées. Les masses comprenaient désormais qu'elles devaient prendre tout le pouvoir. L'heure d'une révolution avait sonné. Dans la nuit du 24 au 25 octobre, les ouvriers en armes, aidés des marins et de quelques régiments, organisés dans un comité militaire révolutionnaire, s'emparèrent du téléphone, de la poste, des imprimeries, des gares, des ponts, de la Banque d'État. Au matin, ils étaient maîtres de la plupart des bâtiments publics. La nuit suivante, le palais d'hiver, siège et dernier baston du gouvernement provisoire, fut occupé et les ministres arrêtés. Le soir du 25 octobre, alors que se réunissait le second congrès des soviets de toute la Russie, le pouvoir revenait entièrement aux soviets. L'insurrection sanctionnait, ce qui était un fait depuis des semaines. Le gouvernement avait perdu la confiance des ouvriers et des soldats. Plus personne n'obéissait à ses ordres ni à ceux de l'état-major. Le gouvernement n'était plus qu'un gouvernement fantôme. C'est ce qui explique qu'à Petrograd, l'insurrection ne fut qu'une formalité militaire et ne fit quasiment pas de morts. Techniquement, militairement, l'insurrection d'octobre fut exécutée par une minorité d'ouvriers et de soldats. Mais elle ne fut pas un putsch, comme voudraient le faire croire les détracteurs des bolcheviks. Ou alors, ce serait un putsch d'un genre complètement inédit. Parce que l'insurrection d'octobre fut ouvertement annoncée, largement débattue et même soumise au vote. Tout au long du mois d'octobre, il n'était plus question que de l'insurrection. Quand les mencheviks et les socialistes révolutionnaires la rejetaient, les bolcheviks distribuaient des tracts, organisaient des meetings pour en expliquer l'urgence. Les colonnes des journaux étaient remplies de pour, de contre. Et c'est sur cette question de savoir s'il fallait, oui ou non, remettre tout le pouvoir aux soviets et renverser le gouvernement provisoire, que se faisaient toutes les élections dans les soviets. Voter bolchevique, c'était voter pour l'insurrection. Et semaine après semaine, les soviets votèrent massivement pour les bolcheviks. Alors oui, octobre fut bien l'insurrection des masses, une révolution, en ce sens que l'immense majorité des travailleurs et des soldats en avaient compris la nécessité, la soutenaient et l'attendaient. Le 25 octobre au soir, l'insurrection n'était même pas terminée, que se réunissait déjà le congrès des soviets et des députés, ouvriers et soldats de toute la Russie. Comme le raconte Trotsky, ce n'étaient pas des députés bien habillés, fleurant le parfum à la mode. C'étaient des ouvriers du rang, des soldats en grossier uniforme, des paysans barbus. Et c'est sans doute pour cela qu'ils firent ce qu'aucun gouvernement n'avait encore jamais fait dans l'histoire. Ils traduisirent immédiatement en actes les aspirations des opprimés. Aussitôt proclamé, le gouvernement soviétique signa les décrets principaux qu'attendaient les opprimés depuis 8 mois et que le gouvernement s'était toujours refusé à prendre. Il décréta l'armistice, dénonça les buts impérialistes de la guerre, publia les traités secrets et appela les peuples d'Europe à suivre l'exemple des travailleurs russes. Il décréta le partage des terres et encouragea les paysans à se les répartir afin de mettre fin au parasitisme des grands propriétaires terriens. En s'appuyant sur la mobilisation des travailleurs dans les usines et les quartiers populaires, Il organisa la production et le ravitaillement pour répondre aux besoins urgents de la population. Il imposa le contrôle ouvrier et expropria la bourgeoisie quand celle-ci ne voulait pas collaborer. Il décréta encore le droit pour les nationalités qui étaient sous domination de l'Empire russe de se libérer et d'être indépendantes si elles le décidaient. Il légalisa le divorce et il déclara non seulement l'égalité des droits aux femmes, mais il fit tout son possible pour les libérer des tâches domestiques et les associer à tous les niveaux du pouvoir. Aucun autre gouvernement prétendument démocratique n'a réalisé ne serait-ce que la moitié de cela. Pour cela, il fallait que surgisse un pouvoir d'un genre nouveau, un pouvoir dirigé par les exploités, pour les exploités. Et pour savoir en quoi ce pouvoir et le parti bolchévique, qui en était le pilier, nous inspire encore aujourd'hui, je vous donne rendez-vous après la pause.